Pop, popienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Pop, 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 tous ces fidèles le savent, est une émission qui se préoccupe de la santé mentale de ses auditeurs. Et nous nous sommes dit qu'après les émotions de ces derniers jours, changement d'heure, fête des morts, enfants masqués proposant un coup de trique ou un paquet de treats, le moment était venu de vous offrir un peu de sérénité. De la musique, bien sûr, puisqu'elle a la réputation d'adoucir les morses. Mammifères marins d'apparence placide et massive, mais dont il vaut mieux éviter les redoutables canines si on a le malheur de traîner sur la banquise déguisée en citrouille géante, situation, je le reconnais, improbable pour la plus grande majorité d'entre nous. Oui, de cette musique légère et mélancolique dont chaque écoute apporte un peu plus de paix. Et je me répète, de sérénité en cette fin d'automne, début d'automne, qui en manque tant là et où les esprits s'envolent comme les feuilles des arbres au vent mauvais des idéologies radicales. Son auteur répond au nom inactuel d'Albin de la Simone. C'est un nom qui résonne familièrement auprès de tous ceux qui suivent ses aventures musicales subtiles et surprenantes depuis de nombreuses années. Et c'est donc lui l'auteur de cet album qui va nous consoler des premiers frimas de l'automne. En son honneur, cette émission s'intitule « En voiture Simone, accroche-toi Albin » et pop pop pop, c'est parti.
France Inter, pop pop pop, Antoine Decaune.
Bonjour, c'est Albin de la Simone. Aujourd'hui, je suis l'invité d'Antoine Decaune. Pop 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 pop.
Bonjour Albin de Simone.
Bonjour Antoine Decaune.
Oui, une entrée, une intro en musique. Il veut dire quoi ce pop 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 pop?
Non, c'est plutôt pop 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 pop.
Ah, pop pop pop.
Attention quoi.
Ah oui, non, parce que dans le...
Non, c'est Antoine Decaune, c'est pas n'importe qui.
C'est quoi? C'était le Antoine qui était en l'air. Non, parce que le pop 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 était un peu pop 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 pop.
Non.
J'y décelais, un soupçon d'inquiétude, voire une pointe de désespoir.
Alors ça, c'est entre vous et votre conscience, Antoine.
Mais c'est pas du tout en compagnie de ces funestes sentiments que vous entrez dans ce studio, j'espère.
Non, justement. Bon. Non, au contraire.
Albin, je parlais des morses, là, qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais vous avez vous-même le pouvoir d'adoucir les morses?
Les morses, les animaux?
Oui, bien sûr.
Je sais comment on tue un morse.
Comment?
On lui dit, tiens, t'as une tache là, et du coup, il se penche en
il
avant.
Il se penche et il se perce.
Voilà, ouais.
Ça, j'aime beaucoup.
Qu'est-ce qu'on en pense?
Il se double perce.
Voilà, il s'auto.
Oui, il s'auto-suicide en essayant de voir la tâche que vous venez de lui indiquer. Non, on va vérifier ça tout de suite ensemble puisque vous venez nous présenter Happy End. C'est votre sixième et nouvel album. Alors, Happy End, rassurez-moi, Albin, ça n'a rien à voir avec le happy ending.
Non.
Rappelez-moi ce que c'est d'ailleurs.
Je ne connais pas.
Comment
je ne sais pas du tout à quoi vous faites.
Le happy ending, c'est dans certains salons de massage interlope.
Beaucoup, paraît-il.
Voilà, beaucoup plus qu'on ne le dit. Voilà.
Ouais.
Une fin heureuse, donc, pour le client.
Pour le client ou la cliente,
ça marche pour les deux.
Du coup, je commence à en connaître un rayon, en fait, puisqu'on m'en parle beaucoup.
Oui.
Oui, ça peut être pour le client ou la cliente, moyennant finance supplémentaire, une petite fin spectaculaire.
D'accord, mais donc si ça n'a absolument aucun rapport, vous n'avez aucune raison de continuer à me malaxer les deltoïdes, comme vous le faites généreusement.
Je crois qu'on est filmés.
En ce moment, nous sommes filmés. Ah, bon, tant pis. Bon, Albin de la Simone, quand je vous vois, je pense à de la musique qui fait du bien. Je pense aussi à Simone et Garfunkel, bien sûr. Et je vous propose d'écouter Mrs. Robinson pour se mettre en
forme. D'accord.
Mrs. Robinson, c'est Simone et Garfunkel dans Pop Pop Pop. Hein, et c'est le morceau qui me fait penser à Albin de la Simone, notre invité du jour. Ça serait bien d'ailleurs un album avec Garfunkel, Albin de la Simone et Garfunkel.
C'est vrai, ça pourrait être intéressant.
Non, ouais. Ça vous tenterait ça?
Non.
Non, pas du tout. Albin de la Simone, il y a 2 ans tout pile,
ouais.
Sortait cet album.
Je ne vais pas sortir. Je ne vais pas me découvrir des failles.
Faille, c'est un album que vous avez coproduit avec la chanteuse Pomme et qui vous a valu de chaleureux remerciements lors de son discours aux victoires de la musique. Vous avez tout de suite su que cet album vous conduirait à la victoire ?
Pas du tout, mais par contre j'ai tout de suite su que cet album me plairait et que cette chanteuse me plaisait. Après, je travaille avec plein de gens qui n'ont pas de victoire de la musique et puis moi-même... Je n'en ai pas, mais c'est non, c'est, elle est inspirante, elle est inspirée, elle est inspirante, ouais. Et elle est venue chercher en moi ce que j'aime de moi aussi, enfin ce qui est le plus sincère et le plus profond en moi. Donc en tout cas, on est juste.
Qu'est-ce que vous aimez de vous, de si sincère et de si
profond? Ma gueule.
Bah ouais, non, c'est dit. Faut
non, mais c'est-à-dire que avec elle, on a travaillé vraiment dans le rapport très naturel entre les instruments, les musiciens. Le disque s'est fait en 6 jours. C'est quelque chose que je commence à avoir l'habitude de faire et travailler sur l'acoustique des instruments, la vérité des instruments et donc l'instant. Donc les bons musiciens qui sont en même temps en studio et ça. Elle est incroyable pour ça, Pomme. Elle joue la guitare très bien, elle chante très bien. Ce qui fait qu'à chaque instant, ce qu'elle est en train d'enregistrer, on peut le garder. Donc, c'est nous qui ramons derrière jusqu'à faire la bonne version, mais elle était tout le temps dedans. Quoi. Donc,
je vous demande de me parler de vous, vous me parlez d'elle.
Oui, mais vous m'avez...
D'accord. Enfin, on va continuer à faire un petit ping-pong.
Je suis génial.
Non, alors, c'est vrai que vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes, une myriade d'artistes, hein, de Pomme, donc, dont on parlait à l'instant, en passant par Vanessa Paradis ou encore Souchon. Avec qui avez-vous toujours rêvé de collaborer? Je vous ai écouté Simone et Garfunkel tout à l'heure, mais qui soit toujours en état de le faire aujourd'hui. Ça serait quoi votre fantasme ultime?
C'est marrant, j'arrive jamais à répondre à cette question.
Vous voulez que je vous en pose une autre?
En tout cas, j'ai une réponse, mais qui est pas la bonne. C'est que j'ai tellement été surpris. J'ai été surpris négativement et positivement par des rencontres. Donc finalement, il y a des gens dont j'aimais pas beaucoup le travail, mais avec lesquels j'ai adoré travailler et dont j'aime le résultat. Ou alors j'ai adoré, mais j'aime pas le résultat. C'est vachement plus complexe.
Donc vous ne répondez absolument pas à ma question.
Non.
Et pour reprendre, vous ne répondez jamais aux questions.
C'est la deuxième.
On est bien barré là. Pour reprendre le titre des films d'Agnès Jaoui, d'où vous vient alors ce goût des autres, Albin de la Simone?
Alors ça, c'est une vieille habitude. En fait, c'est ma première empreinte, c'est ça, parce que j'ai beaucoup accompagné des gens avant de devenir moi-même chanteur et auteur, compositeur, interprète. Donc je viens aussi d'une musique qui est le jazz, qui est quand même une musique où on s'appuie vachement les uns sur les autres et où on s'inspire. Et donc ce goût des autres me vient des autres que j'ai beaucoup fréquenté. Comparativement, j'ai perdu 10 ans à ne pas être chanteur, donc je suis arrivé tard comme chanteur. Par contre, pendant ces 10 années, j'ai beaucoup fréquenté les autres et ça m'a marqué.
Et vous avez accompagné aussi de nombreux musiciens, dont le fameux Iggy Pop, dont on parlait un peu.
Iggy Pop,
bien sûr. Iggy, dont on parlait il y a quelques instants, hors antenne. Un souvenir particulier de ces moments avec l'Iguane?
Ouais, je me souviens que un jour on répétait et j'essayais de faire un truc joli au piano et il est venu me voir et m'a dit just play the chords, juste joue les accords, le reste je m'en occupe. Ouais. La déco en gros c'est mon truc, toi fais ton boulot et c'est moi qui vais décorer. Il m'a dit ça mais d'une manière vachement cool et c'était une manière de définir les rôles et vraiment bien. Puis après d'entendre on the keyboards Albin. Ça me reste.
Comment il le prononce?
Albin. Un truc comme ça, je sais plus, j'ai l'enregistrement.
Albin. Alors, certes, vous avez travaillé avec Iggy, et je vous en félicite. Vous avez également travaillé avec, et là, vous voyez où je veux en venir, vous avez travaillé avec eux. Et To Be Free, oui, car vous avez joué les bandes playback qui servaient au concert de To Be Free à Paris. N'aviez-vous pas, à ce moment-là, l'impression d'être tout simplement au sommet, répondez-moi, Albin La Cime.
J'ai vécu des grands moments qui alimentent encore des dîners et qui alimenteraient une émission de 24 heures. Sinon, ça m'a aussi, ça m'a appris des trucs. Et puis, c'était assez ridicule, ouais. Mais drôle.
De cette collaboration furtive naîtra un des scandales les plus célèbres de la pop culture, car vous avez déclaré, je vous cite, ce qui est drôle, c'est que dans l'album Bercy 98, les applaudissements sont enregistrés à Marseille, alors il n'y a rien qui se passe à Bercy.
Non. Ouais. Ça, je l'ai appris. Moi, je n'ai fait que les claviers de ce truc-là qui était diffusé à Bercy. Mais je crois qu'ils ont merdé dans le placement des micros. Donc, le seul truc live, c'est les applaudissements. Ouais. Et comme ça n'avait pas marché, ils ont pris ceux de Marseille.
De Marseille.
Voilà, donc finalement.
Vous avez eu des mesures de rétorsion de la part des fans après
ou... Ah non, mais moi, je suis venu une journée en studio.
Oui, mais c'est une journée qui marque dans la vie d'un homme.
Ah oui.
Je sens que cet épisode est encore un peu douloureux pour vous, Albin La Cime, et pour vous.
Je sens qu'il est douloureux pour vous aussi.
Et pour vous remettre de vos émotions, mais je vous propose d'écouter justement un morceau de ce nouvel album, Happy End.
On pourrait pas écouter plutôt les To Be Free quand même.
Vous y tenez vraiment?
Non.
Alors non, on va écouter un extrait de Happy End avant d'en parler avec Charline Roux qui nous rejoindra juste après Il pleut. Il pleut, c'est le titre.
Thank you.
Mais que ça fait du bien cette musique. Ce titre c'était Il pleut et c'est extrait de Happy End, le sixième album d'Albin de la Simone.
de Simone de l'Albin,
oui. Et vient de nous rejoindre Charline.
Bonjour.
Bonjour Charline. Charline, vous avez écouté cet album Happy End, vous l'avez écouté de la première à la dernière note, la fin est-elle heureuse?
Alors dans les films que je me fais, jamais complètement, et c'est ce que permet cet album, laisser l'imagination vagabonder, un peu comme une BO perso d'un film qu'on a soi-même inventé. Quelle histoire est-ce que vous vous êtes raconté, Albin, au moment de sa conception?
Je me suis pas raconté d'histoire. Je me suis raconté des histoires en l'écoutant après, une fois qu'il était fait. Mais non, j'ai vraiment laissé parler la musique.
C'est... Et alors du coup, en l'écoutant, Happy End, ce serait plutôt comédie romantique, western, dramédie, définitivement pas un boulevard, ça c'est sûr. Mais...
Non, ouais, peut-être pas comédie romantique, comédie, un truc entre deux, quelque chose de, mais d'assez peinard, d'assez serein en tout cas. Je sais que pendant l'enregistrement de ce disque, je me suis donné une interdiction, c'est la tension. Parce que quand on est musicien, on se laisse facilement aller par l'idée de monter un peu, de faire de la tension et de se dire « Allez, on y va !» Et en fait, là, à chaque fois, c'était « Non, j'y vais pas !» Et donc, ça rebondit tout le temps et ça n'y va pas. Et c'était le but de ce disque.
Enfin, ça n'y va pas, ça y va quand même.
Oui, mais ça monte pas.
Soyez clair.
Vous m'avez très bien compris. Non.
Happy End, c'est votre sixième album qui est sorti sur ce label Tôt ou Tard. Et c'est vous qui avez eu l'idée de lancer cette nouvelle collection, on espère, hein, où des auteurs-compositeurs proposent de la musique sans parole. Pourquoi? Parce que vous en aviez assez quand vous parlez toujours de vos textes et pas assez de votre musique?
Alors, il peut y avoir un peu de ça, mais c'est surtout... Enfin, disons que je trouve qu'en France, on parle pas beaucoup de musique. Quand on sort un disque de chansons, on parle de tout sauf de la musique. Ça me frustrait un petit peu. Mais surtout, ce qui me frustrait beaucoup, c'est que pendant le confinement, je n'ai vraiment réussi à écrire aucune chanson. Et j'ai mis un an à me dire, mais en fait, c'est pas parce que j'écris pas de chansons que je peux pas faire quelque chose. Après tout, je suis musicien. Et donc, de laisser ce flux... servir à quelque chose, de musique pure en fait, sans parole. Voilà, ça m'a permis de réaliser que j'étais musicien en fait.
Alors pas de paroles certes, mais des titres, et des titres des plus intrigants comme ce Umami. Un mot japonais, si je ne m'abuse, qui renvoie à ce petit je ne sais quoi dans la cuisine qui rend le tout savoureux voire délicieux. Quel est-il pour vous cet Umami en musique, j'entends?
C'est une espèce de quête. Imaginez que je vous dise un nouveau goût vient d'arriver. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Umami, c'est un goût qui vient d'être authentifié, mais c'est très difficile, si je devais vous dire, d'imaginer ce que c'est le sucré. Comment on peut décrire le sucré à part par l'expérience? Donc moi, je passe mon temps à essayer de comprendre ce qu'est ce mot umami. Je sais que ça veut dire délicieux, ça veut dire goût délicieux en japonais, mais je le cherche. Donc c'est une espèce de poursuite.
Ça évoque une couleur, non? Aussi le bleu.
Le bleu? Umami?
Umami bleu.
Oh non.
Je tiens quand même
le bleu Nicoletta, vous voulez dire?
Je tiens à préciser là que c'est un Picard. Un Picard, vous êtes.
Ah oui, alors on rebondit sur la Picardie après une blague comme
pas,
ça, parce que finalement.
Pas.
Ah bah allons-y, vous êtes en minorité, hein,
sais,
car la Picardie est là.
Alors,
hein,
d'où êtes-vous?
De Chauny, dans l'Aisne.
Chauny,
bien sûr.
Et bien la rivière Simone, qui est toute petite, elle est à côté de Vervins.
Oui, absolument.
Voilà.
Ça y est.
Voilà, ouais.
Paf,
bah, c'est vous qui nous avez lancé. Hein,
donc Umami, donc Umami Blue.
Umami Picardie, bien sûr.
Umami Blue, la Picarde. Non, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, ok, vous faites un album uniquement de musique, les mots, vous les laissez de côté, mais j'ai l'impression que la période qu'on a traversée, ce fameux confinement-là, vous a séché du côté du verbe, mais pas du tout du côté de la musique. Comment ceci explique-t-il cela?
Eh bien... Je n'en ai pas la moindre idée. Il se trouve que naturellement, je suis musicien. Je crois vraiment, je suis né musicien et j'ai la musique naturelle. C'est un langage qui. Enfin, j'ai souvent l'impression d'avoir une fontaine de musique en moi. L'écriture de texte est vachement plus laborieux pour moi et c'est quelque chose de beaucoup plus dans le travail et la recherche et la galère. Et ben là, ça a sauté, vraiment. Cet effort-là, j'arrivais plus à le faire. Mais peut-être parce que je ne voyais pas l'horizon pour les chanter non plus, les gens pour les entendre. Alors que la fontaine de musique en moi continuait à couler à flot, quoi, par contre.
Et d'où cette envie de cette collection, cette fameuse collection, ouais. Donc, que vous inaugurez d'une certaine manière.
Mais oui, mais parce que chez Tôt ou Tard, mon label chéri, il y a Vincent Delerme, il y a Mathieu Bogart, il y a El Naïm qui sont des vieux copains, qui sont des musiciens que j'aime beaucoup, dont j'aime le langage musical. J'espère vraiment qu'ils vont emboîter le pas.
Enchaîner, ouais.
Et qu'ils vont faire chacun un disque instrumental. Et Vianney et tout ça, après tout le monde peut y aller, quoi. C'est vraiment intéressant, je trouve.
Et alors parlons de la conception même de cette musique, une sorte de vagabondage avec deux mots-clés que je vais vous demander de nous expliquer. Je préviens nos auditeurs, ceci n'est pas un camoulox. Helmut et Ciboulette.
Ah.
Ah.
Ça fait dessin animé un peu.
Ouais.
Alors Helmut, c'est un synthétiseur dont je joue, c'est un Korg de 1974 dont j'ai joué sur peut-être 100 albums de variété française en général. Et qui a à un moment défini vraiment un son qui m'appartenait. On m'appelait souvent pour jouer Helmut. J'en ai joué sur des chansons. La vie ne vaut rien, par exemple, de Souchon. Oui. Il y a beaucoup de Helmut. La Ciboulette, c'est une boîte électroacoustique qui est une boîte en bois sur laquelle il y a des ressorts et des tiges. Et notamment, j'ai mis des cordes de guitare en bouquet qui ressemblent à un bouquet de ciboulette. Qui fait que ma fille a eu l'idée d'appeler ça la ciboulette. Et en fait, c'est une machine que je gratte, que je tape, que je frotte. Et ces sons-là sont amplifiés et passent dans des effets. C'est ce qui fait les rythmes de tout ce disque. Enfin, tous les rythmes de ce disque.
Mais on vous surnomme plus volontiers Helmut ou Ciboulette ?
Ciboulet.
Et puis pour cet album, vous êtes mis en mode aléatoire en procédant par tombola, en tirant au sort des petits papiers qui détermineraient les instruments utilisés, un peu comme Brian Eno ou le peintre berlinois Peter Schmidt l'avait fait auparavant. Est-ce que ces contraintes vous ont aussi en quelque sorte libéré ?
Ouais, comme toujours les contraintes. Enfin, pour moi, en tout cas, les contraintes servent. L'infini des possibles, c'est rien. En fait, on fait rien. Et là, c'était pour me libérer, et c'est une manière aussi de faire entrer autre chose que mon cerveau dans ce disque. Sinon, il y a que mon cerveau, tout vient de moi. Donc là, c'était un peu, ok, je suis musicien, si on me dit, joue de la timbale d'orchestre, qu'est-ce que je vais faire avec une timbale d'orchestre? Et ça m'amenait quelque part. Après, si j'avais aucune idée, je me forçais pas. Le truc des stratégies obliques de Brian Eno et Peter Schmidt, normalement, c'est, on n'a pas le droit de refuser.
Oui.
Quand on joue le jeu, on y va à fond. Moi, c'était juste une petite inspiration pour amener autre chose que moi dans l'histoire, quoi.
Et vous accordez une vraie importance aux lieux, en l'occurrence, ceux dans lesquels vous travaillez. Pour Happy End, les studios Ferber à Paris ont été votre refuge. Vous en parlez beaucoup. Qu'est-ce que ce lieu a de si particulier? Lié à vos yeux, enfin plutôt en l'occurrence à vos oreilles.
Alors il y a plusieurs trucs. Déjà, il est beau physiquement. Il est en lambris. Enfin, c'est un très bel endroit. Il sonne très très bien. Ce serait, disons, la qualité première pour un studio. Mais il y a un autre truc qui est complètement abstrait et inexplicable. C'est un endroit qui appelle la musique. Quand on rentre dedans, on a envie de faire de la musique et la musique sort mieux. Elle sort plus riche. Elle sort. Et j'ai fait des dizaines de disques à Ferber et à chaque fois je m'y sens mieux. Ça, c'est la taille de salle, c'est les vibrations qui me correspondent. J'entre en vibration avec ce lieu. Il y a un studio qui s'appelle ICP à Bruxelles, qui est un très grand studio, dans lequel je ne rentre pas spécialement en vibration. Va savoir pourquoi.
Albin de la Simone, je parlais de musique qui fait du bien en ouverture de cette émission. Est-ce que c'est aussi parce que notre époque est particulièrement bavarde, au point qu'on a parfois l'impression que les mots finissent par étouffer la musique? C'est un sentiment que moi j'ai parfois. Est-ce que vous le partagez?
Ouais, moi aussi. Par exemple, pendant le confinement, j'avais envie de tout sauf d'entendre des chanteurs comme moi, quoi. Des gens qui me racontent des trucs intimes. En fait, j'envie des trucs intimes et je ne peux pas déjà les partager avec personne. Donc, j'avais envie d'écouter de la musique brésilienne, de la musique que je ne comprends pas ou des choses très douces. Et c'est vrai que la bavardise et le haut débit, là, ça
la bavardise.
Est-ce qu'on n'est pas en train de vieillir, mon cher Antoine, tout simplement?
Ouf, ça fait longtemps que je me pose la question.
Je me demande.
Non, mais de trouver qu'une époque est trop bavarde. Peut-être qu'on parle trop, qu'on devrait parler à meilleur escient.
Ça me parle.
Mais c'est aussi une forme de retour aux sources pour vous. Vous le disiez, la musique instrumentale, c'est votre matrice.
Oui, mais je n'avais jamais trouvé. C'est marrant parce que j'avais jamais réussi à trouver exactement la forme qui me convenait. J'ai fait beaucoup de jazz contemporain. J'étais jamais très à l'aise. Et de la même manière, je dessinais, mais je n'ai jamais su quoi faire quand j'étais adolescent. Et depuis quelques années, j'ai enfin trouvé le chemin du dessin et le chemin de la musique instrumentale. Comme si les mots, le fait d'avoir fait des chansons pendant 20 ans, avait finalement libéré quelque chose et maintenant j'en ai presque plus besoin. Bon, si ce n'est qu'ils sont en train de revenir, les mots, mais je me suis débloqué sur deux trucs importants, quoi, la musique et le dessin. Quoi.
Nous sommes en train de parler avec Albin de la Simone de ce très bel album qui s'appelle Happy End, qui est son 6e album sorti sur le label Tôt ou Tard. Je vois qu'il est 16h30 et 36 secondes, c'est donc l'heure des Pop News dans Pop Pop.
Ah,
ne
bougez
pas, Albin.
Première bande-annonce pour l'adaptation d'un jeu vidéo dont la franchise s'est écoulée à plus de 40 millions d'exemplaires, Uncharted, soit inexploré. Les aventures du jeune Nathan Drake, incarné par Tom Holland, et de son pote Sully, Mark Wahlberg, ils ont une quête commune, voire deux.
Il existe des endroits qu'on ne trouve pas sur une carte. Ils n'ont pas disparu, ils sont seulement oubliés.
Pourquoi la carte et pas autre chose ?
C'est la route que Magellan a prise pour faire le tour du monde.
T'es calé en histoire, toi?
C'est le plus grand trésor qui n'ait toujours pas été retrouvé.
5 milliards, facile. Je pense que t'es là pour ton frère.
Vous connaissez mon frère Sam?
Un énorme trésor à découvrir, un frangin à retrouver, Uncharted de Ruben Fleischer avec également Antonio Banderas. Ce sera le 16 février au cinéma.
Ça s'est passé hier sur le plateau du Late Show de Stephen Colbert sur la chaîne américaine CBS. David Byrne en live pour un extrait d'American Utopia, son spectacle musical From Broadway. Et avec la troupe, ils se sont lancés dans Eyes Imbra des Talking Heads. Évidemment, on vous glisse cette performance chantée et dansée sur le compte Twitter 3615 pop pop pop. Et précisons aussi qu'American Utopia, le spectacle musical filmé par Spike Lee, est dispo en VOD.
In a galaxy far, far away. Je sais qu'en disant ça, Antoine a déjà des frissons d'angoisse. In a galaxy far, far away. Donc, la force, son côté obscur, Tatooine, tout ça, tout ça. Et juste avant la saga Skywalker, il y a Grogu, déjà, et quelques figures connues, dont un mercenaire répondant au nom de Boba Fett. Ceci est son libre, enfin sa série, dans l'univers Star Wars. Et Boba Fett n'aime pas qu'on le traite de chasseur de primes.
I am not a bounty hunter. I've heard otherwise. I know that you sit on the throne of your former employer.
Jabba ruled with fear. I intend to rule with respect.
Boba Fett qui souhaite apparemment reprendre le trône de Jabba the Hutt. Vous suivez Antoine?
Oui, bien sûr.
Vous voyez qui c'est, Jabba?
Oui, oui, il a bien raison.
Ouais. Et ce sera dans le livre de Boba Fett, spin-off du Mandalorian, lui-même série dérivée de Star Wars. Vous suivez toujours?
Oui, oui,
ouais,
oui.
Ce sera
sûr.
Le 29 décembre sur Disney+.
Star Wars, c'est le film de George Lucas.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Biased, mais...
Yoda?
Non, Boba Fett.
Ah
oui,
non.
Ah bah oui, enfin, ah oui, non, sans blague.
Moi, je croyais que c'était David Byrne.
Ok, vous allez vous y mettre tous les deux, là, c'est ça, la Picardie unie, enfin. Okay. Bon, merci Charline, Albin de la Simone, revenons à nos moutons et à votre album. Charline parlait tout à l'heure de Happy End, comme d'un album qui serait la bande originale d'un film dont l'auditeur serait l'auteur, en partie. Ouais. Elle a raison, et je crois que la réussite du projet, c'est qu'à travers la simplicité et l'épure, vous laissez toute la place à l'imagination. Vous-même, qu'est-ce que vous écoutez comme musique pour retrouver ce genre d'émotion?
Ben j'en cherche en tout cas. Mmh. J'en cherche et quelquefois de la musique de film.
Ouais.
Ça m'arrive, mais dans les musiques de film, il y a souvent la scène de baston ou la scène. Enfin, il y a justement la montée en tension que j'essaye d'éviter. Mmh. Il y a la musique de Nils Fram qui marche bien quand il est au piano tout seul. La musique classique.
Une Satie.
Ouais, par exemple, mais pas que. Même du Bach. Ravel, plein de choses, du jazz.
Des musiques qui
laissent de la musique brésilienne.
Cette porte ouverte, où vraiment on peut s'engouffrer et c'est embarqué.
C'est des musiques qui doivent... Je crois que la tension, c'est tout bête, mais quand il n'y a pas de montée en tension, en fait, ça laisse de la place.
Ouais.
Quand ça ne démarre pas, en fait. Et ben, quand ça ne démarre pas, on démarre autre chose, en fait. On fleurit en nous.
Est-ce que ça ne serait pas une métaphore de la situation que nous vivons en ce moment, mon cher Albin de la Simone?
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Rien, désespérément rien. Et est-ce que sur cet album, on trouve aussi des mélodies pour lesquelles vous n'aviez pas encore trouvé le texte, mais qui sont pourtant destinées à devenir des chansons, peut-être, par la suite?
Ouais, il y a. Alors c'est marrant. Alors là, je fais une toute petite boucle, mais je n'ai jamais réussi à écrire un texte sur une mélodie. J'ai toujours écrit d'abord les textes sur une page blanche, et quand enfin j'avais un texte précieux, le musicien que je suis est plus à l'aise, lui peut faire des tentatives. Mais l'inverse marchait pas. Et là, depuis, par exemple, le morceau Il pleut qu'on a entendu, ben j'ai écrit un texte dessus. Et il m'appelait un texte, et il a fini par. Donc ça va devenir une chanson. Donc finalement, je suis peut-être à un croisement, enfin un moment important de ma vie de d'auteur, qui est que maintenant, je vais peut-être commencer par la musique et continuer par le texte. Ce serait chouette parce que ce serait une vraie nouveauté dans mon parcours, dans mon rapport intime à l'écriture. Quoi.
Une chanson où il sera question de pluie ?
Ben non. Par contre, malheureusement, voilà. Il va falloir que je change de titre parce qu'il n'y a rien à foutre là.
Le fait de ne plus écrire de texte ne vous pousse-t-il pas à vous inspirer d'autres auteurs ? Parce que vous avez annoncé sur Instagram au début de cette aventure vouloir faire un album, je vous cite, « bon pour le moral ». Alors évidemment, tout de suite, on pense à eux.
C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral.
Vous retrouvez là directement l'inspiration de la compagnie créole ?
Direct, direct. Non, ceci dit, j'aime vachement le zouk. Mais je pratique pas.
Mais on peut,
c'est un peu comme les gens
tendu,
qui la définition selon des proches du gentleman, c'est le gars qui joue parfaitement de la cornemuse, mais qui n'en joue pas.
Il évite de le faire. Oui.
Alors pas de compagnie créole, mais un autre monument de la chanson festive est cité dans Happy End, le film qui accompagne la sortie de l'album et qui est dispo sur votre chaîne YouTube Le Vin de la Simone. Et cette référence, eh bien, elle est dans l'échange qui suit.
Ouais, mais bon, elle. Le fait qu'une mélodie reste en tête, ça veut rien dire. La danse des canards, ça reste en tête. Vraiment, j'adore la danse des canards.
La danse des canards que vous adorez, donc, première nouvelle, mais une mélodie qui reste en tête, ça ne suffit pas à vous satisfaire. Alors, qu'est-ce qui vous rend un morceau acceptable, voire agréable ?
Alors là, j'en ai pas.
Oui, on est parti de la danse
idée.
Des canards, hein, pour arriver là.
Hein, j'essaie de. Non, qu'est-ce qui la rend agréable ? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que je l'aime ? Aucune idée.
Mais vous aimez la danse des canards ?
Non, mais j'aime la danse des canards. On peut aimer la musique à différents niveaux, mais la danse des canards, c'est une arme que j'utilise. Maintenant, on peut mettre de la musique sur les chaînes IFI des copains ou dans la chambre de ma fille. Alors, il m'arrive
prendre
de réveiller
distance.
Ma fille avec la danse
Bien
des canards sûr. À fond. Ce genre de truc.
Bon, moi, j'adore la chorégraphie des canards.
Vous la faire pour franceinterre.fr, comment on est filmé ?
La chorégraphie des canards ?
La danse des canards ?
C'est très
simple. Ah, merci.
Ok.
Ah, il le fait bien.
Ah ouais, non, mais c'est pas
ah
la choré.
Il y a un truc
c'est
avec
la
les
choré
coudes,
officielle, hein, pardon.
Non, non, c'est la pompe, ça.
En s'agenouillant. Non, il la connaît pas du tout. Il fait n'importe quoi, on est d'accord.
En Picardie, c'est pas comme ça qu'on fait la danse des canards. Pardon.
En Picardie, vous ne faites rien comme les autres.
Justement.
Bon, revenons à Happy End avec le morceau Soleil en intro.
Je crois que l'émission est visible. Elle est en
France Inter, bien sûr.
Si vous voulez voir ça.
Cet album, écoutez-moi, je suis sérieux. Cet album s'ouvre avec ce morceau qui s'intitule Soleil.
Ça, c'est la ciboulette qu'on entend, le rythme, la ciboulette dont je vous parlais tout à l'heure.
Oui, elle est goûtue. Et ce morceau, Soleil, il nous plonge dans une espèce de western en slow motion, un Ennio Morricone qui serait passé de 45 à 33 tours.
Ah oui ?
Oui, absolument. Est-ce que vous avez profité du confinement pour vous replonger dans ce genre d'univers ? Ou pas du tout.
Oui, j'ai jamais arrêté en fait d'écouter Ennio Morricone et j'ai lu un petit peu de ça. Il a fait il y a eu un livre avant sa mort d'interview croisée qui est intéressant. C'est quand même un mec vraiment intéressant et même passionnant. Et l'emploi de la balle de ping-pong, de certains sons. En fait, j'ai découvert en faisant de la musique instrumentale qu'il y a une question très épineuse qui se pose quand on fait de la musique instrumentale. C'est quel instrument pour jouer la mélodie ? Quand il n'y a plus la voix, vous la jouez au piano. Bon, ok, mais tous les morceaux, on va pas tous les jouer au piano. Donc, avec quoi ? Une guitare, un banjo, une épinette. Et c'est là qu'on se met à être créatif et que Morricone est hallucinant.
Alors, puisqu'on parle de musique de film, j'en profite pour rappeler que vous pouvez toujours voir en salle cette petite merveille de film animé qui est La Vie de Château de Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Hachlimi, dont vous avez composé la BO, Albin. Est-ce qu'on compose différemment à hauteur d'enfant ou au contraire, est-ce que vous faites constamment appel à l'enfant qui est en vous quand vous travaillez, quand vous composez ?
Ouais, je répondrai la réponse 2. Elle est parfaite.
toujours l'enfant qui est là.
Oui, oui, parce que je vois pas l'intérêt de se mettre à hauteur d'enfant. Les enfants, il y a pas de musique pour enfants. Je trouve ça chiant la musique pour enfants en fait. Enfin, quand elle est faite pour les enfants, Ce dessin animé est super et va devenir une série. Donc il va y avoir 6 épisodes et c'est vraiment chouette, ça me touche beaucoup.
Et vous parlez ici d'un artiste qui a enregistré certes dans le studio Ferber, mais aussi dans la chambre de votre fille, si je ne m'abuse.
Ah oui, oui. Bah, ma fille était en vacances quand je suis revenu du studio Ferber. Quoi, bien sûr.
Non,
vous en doutez. Ma fille de 10 ans était en vacances et je suis revenu du studio Ferber et j'ai installé une sorte de salle de montage dans sa chambre et pour pouvoir m'isoler un peu et quelques instruments. Et c'est là que j'ai dérushé ce que j'avais enregistré à Ferber. Et comme on le disait hors antenne, quand on revient d'un tournage ou d'un studio et qu'on ouvre les choses à la maison, d'un seul coup, il n'y a plus la magie du studio, on retombe un petit peu. Et c'est là que j'ai fait le tri, que j'ai enlevé tout ce qui n'allait pas et que j'ai rajouté quelques mélodies.
Et bien, la magie, elle est revenue, elle est intacte dans Happy End, le 6e album d'Albin de la Simone. Chaudement recommandé, évidemment, par Pop Pop Pop. Albin de la Simone, dans la suite de Pop Pop Pop, nous parlerons de...
If you're not all in, then I can't be with you.
La filmoteca restaurará tu sabor. Por eso creo que ahora es justo que la presentemos los dos en la filmoteca.
Play it again. Johnny Guitar.
Nous parlerons de Sex Education, des Strokes, de Peggy Lee, de Sachet en plastique, oui absolument, de Pedro Almodovar et de bien d'autres choses. Pop, ce sera juste après Tina Silly qui signifie « Épouse-moi ». C'est un morceau signé, eh bien, de vous, Albin de la Simone, avec Yael Naïm.
Oui.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais maintes fois. Si encore je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison diffèrent, mon amour, mon poison violent.
Tina Silly, Tina Silly, Tina Silly.
Nous n'avons pas connu la guerre, les tranchées dans l'appartement. Pour cela, j'étais bien trop fière. La mort a frappé finalement.
Si nous avons croisé le fer, c'est dans le coton seulement. Mais mon amour, tu le vois rouge se faire que je voulais blanc.
Tina Silly, Tina Silly, Tina Silly, Betty Shelly. Tina
à refaire, je le referai autrement.
Oh, j'y crois, enfin j'espère, j'espère y croire ou je me mens.
Mais pas de retour à la terre, un tulle que je voulais blanc.
Tu viens d'arracher ma robe et veux me perdre dans les champs.
Tina Silly, Tina Silly, Tina Silly, Tina Silly, Tina Silly.
Épouse-moi. Alors non, ce n'est pas une demande que je fais à notre invité Albin de la Simone, mais le titre du morceau qu'il a signé avec Yael Naïm. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et là, je m'arrête.
Ah.
Et je vous tends un sachet plastique, car malgré la pollution de de nos océans. Mm-hmm. C'est ce qui évoque pour vous la pop culture, Albin de la Simone. Expliquez-moi.
Alors, c'est pas ce qui m'évoque, mais c'est ce que j'ai eu envie d'amener ici. Mm-hmm. Parce que bah, le sachet plastique, on y met toutes les merdouilles qu'on achète. Ouais. Et puis, c'est du plastique. Donc, je dis pas que la pop culture, c'est les merdouilles. Hein, je vous vois. C'est quelque chose d'assez présent dans notre culture et qui est condamné heureusement à disparaître puisque ça met quand même 3 milliards d'années à s'auto-éliminer. Mais c'est aussi un instrument de musique. Je vous disais que j'aime bien faire de la musique avec un peu n'importe quoi. Et le sachet plastique, j'adore le son. Je sais pas si vous l'entendez.
On entend pas bien, ouais.
Déjà,
ouais.
Ça, c'est un joli son, je trouve.
Ouais.
Puis après, on peut faire des... On peut enregistrer ça et
on peut même faire une réplique. Regardez, j'ai une boîte de cachou, là.
Ouais.
Ah,
les tarés,
ça marche pas du tout. Non, mais il n'y a pas assez de cachou dans la boîte.
Oui, c'est ça. Alors, il y a deux gentilles dames qui vont venir vous chercher, vous inquiétez pas.
Avec des
soignants en blanc, tout va bien.
On va prendre mes deux comprimés, enfin. Ce ne sont pas des cachous. Bon, gardez ce sachet, Albin. C'est l'heure de votre pop list. Que lisez-vous en ce moment? Que regardez-vous? Qu'écoutez-vous? Que nous conseillez-vous? Je veux connaître vos pop prescriptions. Alors, votre livre. On va commencer avec le livre, Albin de la Simone. C'est Les Orages.
Oui.
C'est un recueil de 13 nouvelles signées Sylvain Prudhomme. Charline, les orages désirés, ceux qui se lèvent vite, comme disait Chateaubriand en montant sa mayonnaise, ce n'est pas du tout le sujet.
Non, des nouvelles qui mettent en scène des personnages confrontés à un drame et qui racontent ces moments de vacillement, voire de bascule.
Exactement.
Oui, la Simone. D'abord, la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît.
Ah oui. Alors bon, je lis comme ma grand-mère, hein, mais.
Allez-y.
Au cimetière, tout va très vite.
Mes cachous, moi.
Au cimetière, tout va très vite. Oui, donc on est à un enterrement. Au cimetière, tout va très vite. Devant les portes encore fermées, ils sont une trentaine à attendre dans le soleil. Enfants, petits-enfants, anciens élèves de chant. Il y a même quelques très vieux qui sont venus aussi, parents d'amis, qui ont tenu à être là, nonagénaires, appuyés sur des cannes ou en fauteuil, dont on ne peut s'empêcher de penser qu'ils sont là en repérage. On bravait la distance et la chaleur aussi pour venir voir, se rendre compte, conscient que leur jour approche.
Un extrait du livre Les Orages, un recueil de nouvelles de
Sylvain Prudhomme. Émouvant. C'est très émouvant. Ouais. Il y a une nouvelle qui est très courte, par exemple, où c'est une femme qui rentre dans son bain et il décrit les sensations. Il est elle, il parle à la première personne, et décrit la sensation pendant deux pages du corps qui rentre dans l'eau chaude. Mm-hmm. C'est magnifique.
Charline, vous avez vérifié
La température de l'eau?
Non, les sensations d'une femme en rentrant dans son bain.
Je ne prends pas de bain, je prends des douches.
Autant pour moi.
Voilà.
Bien. Donc,
on a ce livret,
livre Je l'ai, Les Orages de Sylvain Prudhomme, le choix d'Albin de la Simone. Le film que vous regardez en ce moment, Albin, n'est pas un simple film, mais toute une collection.
Bah, regarde, le film que je regarde en ce moment, ouais. Il faudrait qu'il soit très long.
Oui, c'est ça, parce que c'est la collection des films de Pedro Almodovar. C'est ça que vous nous avez donné comme information.
Oui, parce que je peux pas regarder un film tout le temps. Mm-hmm. La question était bizarre.
D'accord. Alors, Charline, puisqu'Albin se refuse à choisir.
Je crois qu'il aime pas notre interview.
Oui, oui. Si, pardon. Bon, alors,
on est attendez, tout va très bien. On ne va pas se montrer plus royaliste que le roi. Dites-lui quelque chose pour l'impressionner sur Pedro Almodovar.
Eh ben, que Pedro Almodovar peut passer par ce studio, si, sur le siège, là, sur lequel vous êtes, Albin.
Qu'il est passé.
Oui, bien sûr. Là, pour parler de Douleur et Gloire, histoire d'un réalisateur en souffrance qui lui ressemblait quand même drôlement, et voici ce qu'il en disait.
En cualquier cas,
en tout cas,
yo como persona.
Moi, en tant que personne, je l'ai dit, je ne suis pas un personnage de film, mais je suis complètement vampirisé par le fait de faire des films. Et on peut dire que le cinéma me possède complètement, et donc de ce point de vue, je fais partie peut-être d'un film parce que le cinéma est plus fort que moi.
Alors, Albin de la Simone, à défaut de choisir un film de Pedro Almodovar, ça vous fait quel effet d'être assis sur le même fauteuil que lui?
Je suis déjà assis en face d'Antoine Decaune, figurez-vous.
Et Charline Roux.
C'est surtout ça qui est impressionnant, je pense.
C'est moins dépaysant, évidemment, parce que la Picardie...
C'est ça. Non, mais Almodovar me touche, je trouve, il me bouleverse, ses films me bouleversent. Je crois qu'on n'a pas encore complètement... Enfin, si, on a réalisé à quel point c'est important, mais ça se revoit, je les revois tous. Et ils marchent tous, et c'est tellement émouvant. Et le rapport à la musique est dingue, le rapport à la couleur, les images, les comédiens. Banderas, dans le dernier, justement, Douleur et Gloire, Banderas qui c'est, moi, ça me retourne. Vraiment, ça me touche beaucoup, 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 et depuis toujours.
Très bien. Albin, passons maintenant à la série. Votre série du moment, c'est Sex Education, ouais, qui vous retourne aussi, j'imagine.
Absolument.
C'est la série Netflix créée par Laurie Nunn, dont nous parlions ici même avec le jeune Sami Houtalbali, qui joue Raïm au moment de la sortie de la saison 3.
Oui, qui est francophone.
Sur votre siège, mais aussi, tout le monde était assis. Alors, Charline, une série qu'on aurait rêvé d'avoir quand nous étions ados.
Exactement.
Vous, il y a quelques années, moi, il y a un demi-siècle, non?
Pas vraiment. Résumé depuis la saison 1, Otis est vierge, mais il sait beaucoup de choses sur la chose. Sa mère est sexologue et très intrusive. Et avec la très rebelle Maeve, il ouvre une petite consultation clandestine au sein du lycée.
Look, I understand that you're not ready to tell your mom, but if you're not all in, then I can't be with you.
Life is fragile. People make mistakes. If you love someone... You tell him that you love him. Because it might be too late.
Teaser de la saison 3 de Sex Education.
Elle est dingue la saison 3. Et d'entendre la voix de Eric et leur accent et tout, vraiment ça me remet dedans. Et comme vous disiez, ça, pourquoi on n'a pas eu ça quand on avait cet âge-là, l'âge de découvrir tout ça?
Parce je trouve que l'adolescent était méprisé.
Ah ouais, complètement. C'est une bénédiction vraiment pour les jeunes d'aujourd'hui et même pour les gens de mon âge. Je trouve ça magnifique et vraiment touchant, drôle.
Vous auriez été un homme différent, Albin de la Simone, si vous aviez eu Sex Education?
Je pense. Ouais. Je pense que notre classe politique, les dirigeants de ce monde seraient différents, seront différents après avoir eu une éducation sexuelle un peu plus souple.
Par Gillian Anderson.
Ouais. Ah bah, en plus.
Évidemment. Bon, terminons cette pop liste en musique, Albin. Le morceau que vous écoutez en ce moment, c'est celui-ci.
Play the guitar, play it again, my Johnny.
Peggy Lee, John Guitar. Enfin, pour être tout à fait franc, vous hésitiez entre Peggy Lee et puis un autre morceau dont on va parler dans quelques instants. Mais déjà, pourquoi celui-ci? Pourquoi Peggy Lee?
Parce que c'est pas que en ce moment que je l'écoute. Pour moi, là, quand elle monte, là, c'est une des plus belles chansons de tous les temps. J'adore sa voix, j'adore la chanson, j'adore l'arrangement, les sons derrière, les cordes qui arrivent, un solo de guitare à la fin qui est magnifique. Et puis, je suis tombé sur le film que je ne connaissais pas. Je connaissais la chanson avant d'avoir vu le film, et le film est complètement dingue. C'est l'histoire d'une femme qui est tenancière de bar, de saloon. Donc, en plus, c'est un film très féministe. Décidément, tiens, avec Almodovar, je suis assez branché là-dessus en ce moment. C'est un film génial et voilà, ça suffit, je pense.
L'autre, oui, ça suffit. C'est une bonne raison en soi, vous avez tout à fait raison. Et l'autre morceau que vous nous avez cité, pardon, Albin de la Simone, c'est un morceau des Strokes. Adults Are Talking. En deux mots rapides, pourquoi cet autre choix?
Ah, la pop. Pop.
Plus tendu.
Pour moi, c'est l'exacte définition d'une chanson pop.
Bien. Eh ben, quand les adultes parlent, on les écoute. La preuve, ici sur France Inter en direct.
Then you did something wrong. You said it was great, and now you don't know how you could.
Strokes dans Pop 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 sur France Inter, c'était le morceau The Adults Are Talking. C'est le choix d'Albin de la Simone venu nous présenter son sixième et nouvel album Happy End. Chaudement, très chaudement, recommandé à tous les pop-popiens et à tous les pop-popiens. Merci Albin.
Ben, merci beaucoup.
D'être passé par notre studio, cet album Happy End, je le rappelle, est édité par le label Tôt ou Tard, c'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça.
Oui, très très précis. Merci Charles.
Mais merci à vous.
Et vive la Picardie, à demain. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, Dominique Grange et Jacques Tardy viennent nous présenter leur nouvelle BD. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets, 3615 Pop Pop Pop.